Oui, bonjour, je suis formatrice de nouveaux enseignants et en formation continue, transversale et disciplinaire. Vous avez parlé tout à l'heure des nouveaux enseignants, que leur professionnalité se faisait par combinaison de différents éléments. Est-ce que vous avez distingué les jeunes étudiants qui sortent de la fac et les anciens professionnels qui viennent de champs différents au niveau de la profession, et comment ils réagissent? Parce que nous, on a beaucoup de soucis par rapport à ça.
Alors, effectivement, j'avais un propos un petit peu général, et effectivement, alors là, je vous renvoie, par contre, je n'ai pas, le diaporama sera sur le site, je n'ai pas évoqué un certain nombre de personnes, mais je n'ai pas évoqué la dimension identitaire du métier. Et effectivement, les entrants dans le métier qui sont issus d'une formation universitaire, qui font la fac et qui apprennent le métier, effectivement, ne construisent pas leur identité professionnelle tout à fait de la même façon que les personnes qui ont eu une expérience professionnelle dans un autre champ et qui engagent donc une reconversion et qui sont en phase de transition professionnelle. Et effectivement, ils activent pas tout à fait les mêmes ressorts. Et effectivement, j'allais dire, c'est pas tout à fait le même type d'adhésion au métier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Tizou Pérez-Roux, et qui a travaillé donc sur les transitions professionnelles, sur la construction identitaire. Alors, je n'ai pas évoqué la dimension identitaire. Donc, la dimension identitaire fait partie donc de la dimension de la professionnalité des enseignants. C'est une dimension qui est peu abordée. Et effectivement, passer du statut d'un autre métier au métier d'enseignant, eh bien, ça demande une reconstruction identitaire qui parfois ne va pas de soi. Et quand je parlais d'une professionnalité située, effectivement, il y a un cadre de travail qui est le milieu de l'enseignement, qui est le cadre scolaire, et qui est peut-être un petit peu aussi académique, dans lequel, peut-être que pour ces enseignants-là aussi, ça leur renvoie à leur propre histoire. Je travaille avec des étudiants sur Lyon 2, par exemple, des sages-femmes qui veulent devenir professeurs des écoles, donc qui engagent ces transitions, effectivement, ça leur demande tout un travail en termes de posture. Voilà. Ce n'est pas les mêmes itinéraires. Et par contre, je vous engage à aller lire ce que Pérez-Roux, et il y a un article, ils ont fait une enquête avec Vincent Troget sur les PLP, justement, la construction identitaire, la première année, les néo-enseignants, enfin, pas les néo-enseignants, alors c'était du temps des IUFM, et donc c'était donc l'année de stage. Voilà, et donc il montre qu'effectivement, pendant toute une année, donc toute cette année de stage, eh ben, ces néo-enseignants, avant d'être sur les contenus, j'allais dire cognitifs, sur les contenus disciplinaires, ils passent par une phase de construction de la posture professionnelle. Et que la centration sur les contenus disciplinaires est seconde. Parce qu'ils se rendent compte que s'ils n'arrivent pas à tenir la classe, ils n'arrivent pas à enseigner, et qu'ils ont beau avoir les plus beaux contenus disciplinaires du monde, il n'y a rien qui se passe, quoi. Enfin, je caricature. C'est un très grossier que je viens de dire, mais c'est. Voilà. Ils se retrouvent en difficulté.
Oui, bonjour, moi je suis inspectrice de l'éducation nationale Et donc, je voudrais réagir à ce que vous venez de dire, parce que certes, les gens qui viennent du milieu professionnel ont peut-être un travail d'adaptation à faire à notre institution, parce qu'ils ne la connaissent pas forcément. Mais je pense que dans la remarque précédente, il y avait peut-être aussi un autre volet, c'est-à-dire que ceux qui sortent de l'université et qui ont donc passé les concours, ils sont allés donc à un niveau master, et donc ce sont des jeunes qui ont quand même eu une scolarité brillante et qui ne connaissent pas le lycée professionnel. Et certes, ils ont une connaissance du système éducatif, mais qui est leur connaissance à eux, avec un cursus qui est passé par le lycée général et la faculté. Et je pense qu'ils ont autant de difficultés d'adaptation et de posture quand ils arrivent en lycée professionnel que ceux qui viennent d'un milieu professionnel, parce qu'ils ne connaissent pas la spécificité du lycée professionnel. Et ça leur demande aussi tout un travail d'approche très important.
Oui, alors effectivement, la construction de la posture professionnelle, elle est différente pour les uns et pour les autres. Effectivement, et je reviens à ma diapo sur le client idéal, effectivement, les étudiants qui sortent de la fac, effectivement, ils ont tout un travail, ils ont tout à reconstruire l'idéal du métier. C'est-à-dire que lorsque l'on exerce en lycée professionnel, on n'exerce pas en classe préparatoire. Ce n'est pas la même chose. Il y a une dimension. Alors, peut-être ne l'ai-je pas précisé, c'est pas apparu aussi fort, mais il y a une dimension sociale de prise en compte des élèves tels qu'ils arrivent au lycée professionnel, effectivement. Et du coup, ils ont à retravailler cette dimension-là. Et effectivement, sur les enseignants, enfin les reconversions, je vais les appeler je vais pas dire les reconvertis, mais les reconversions professionnelles, effectivement, donc ils ont une posture d'adulte, ils ont déjà une expérience qui est différente. Et du coup, cela, justement, quand je parlais de professionnalité, ils mobilisent. Pour eux, c'est un élément, c'est un plus peut-être. C'est un plus qu'ils remobilisent pour s'adresser à des élèves. Mais effectivement, la formation n'est pas centrée, j'allais dire, sur les mêmes éléments. Voilà. Effectivement, d'où la nécessité de la différenciation de la formation, enfin de la formation au métier. Et sur les SP, il y a encore quelques ajustements à faire. Voilà, sur la formation au métier.
Ne pensez-vous pas qu'un professeur qui se destine à être professeur en lycée professionnel devrait passer obligatoirement par une étape dans le monde de l'entreprise, en particulier pour les professeurs qui sont en enseignement professionnel? Parce que pour asseoir sa personnalité, sa professionnalité, si on n'a jamais exercé le métier, on ne fait que passer de l'école à l'école.
Je pense qu'on ne s'écarte pas beaucoup des questions précédentes, mais effectivement, c'est effectivement la difficulté rencontrée, et je pense aussi nommer, citer lors de la formation au métier, la préparation au métier. Effectivement, il y a la préparation au métier. Alors effectivement, moi, mon axe d'entrée, c'est le travail enseignant. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas besoin d'une formation didactique sur la discipline. Bien au contraire. L'un ne peut pas se dédouaner de l'autre, quoi. C'est une complémentarité. Donc effectivement, mais il y a quand même une formation, des stages qui sont prévus. Effectivement, donc du coup, je vais me mettre du côté des concepteurs de la formation et je vais essayer de me faire le défenseur du diable. L'idée, c'est que on prépare des élèves à un métier et à une poursuite d'études, et on est sur une approche par compétences. On n'est plus sur une approche des savoir-faire, des savoir-être. On est sur une approche plus globale. Donc, c'était en ce sens. L'idée, c'est que l'enseignant, il apprend à apprendre aux élèves. Et c'est pas parce que lui, il fait bien que les élèves vont bien apprendre le savoir-faire professionnel. Donc, c'est une posture différente du compagnonnage qui a ses qualités, qui a été très longtemps, enfin qui et qui encore qui a lieu encore dans certaines formations, mais c'est l'idée d'être plus sur une approche méthodologique, plus à distance, et d'apprendre à l'élève à construire, voilà, plus sur une approche méthodologique. Effectivement, mais dans cette approche, il y a des gestes de métier aussi. Effectivement, qui sont des incontournables. Les mécanos, quand ils sont sur une voiture, effectivement, ils ont besoin de savoir manier les outils que je ne sais pas manier et d'utiliser les bons outils à bon escient. Ça, ça fait partie donc des savoirs, effectivement. Donc, c'est une approche qui est différente, qui est délibérément différente. Alors, je l'ai mis en opposition parce qu'on n'est pas sur la même conception. L'idée, c'est que les élèves apprennent à analyser leur propre activité pour se construire leur propre geste professionnel, quoi. Voilà. Et c'est-à-dire que c'est pas le compagnon, enfin le maître compagnon qui va apprendre, le maître qui va apprendre au compagnon, mais c'est l'élève qui va, parce qu'il a une approche plus globale et qui est plus sur les méthodes, aller lire les... vous verrez vendredi, si vous êtes là sur Néopass, il y a des vidéos qui sont très intéressantes sur la façon d'aller lire l'enseignant qui demande dans un LP de l'automobile, donc, qui demande aux élèves d'aller lire un document et puis de retourner dans le moteur de la voiture pour aller le dépanner. Alors je le dis avec mes mots, je ne suis pas mécanicienne, vous avez bien compris. Mais l'idée, c'était d'inscrire, de faire en sorte que les élèves aient des démarches plus professionnelles sur aller chercher l'information et ensuite la mettre en œuvre. Voilà, c'est plus sur des méthodes que sur des savoir-faire. Voilà.
Pour répondre à ça, effectivement, on travaille par compétences et on prépare, moi, les élèves à une capacité d'adaptation au métier et à une capacité à réagir dans une situation de travail. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux gestes techniques, justement, l'accroissement des PFMP dans les formations du bac pro, en fait, sont là aussi pour que l'élève soit au contact du professionnel et qu'il apprenne le geste. Et puis, oui, j'ai oublié aussi. Et puis, l'enseignant aussi, au cours des visites de stage, il va se nourrir enfin justement de toute situation, cette situation professionnelle, pour pouvoir adapter et créer des situations de travail concrètes au niveau du lycée. Donc c'est sûr que c'est un apport supplémentaire au niveau de l'enseignant. Si on avait la possibilité d'aller un peu plus en entreprise et être sur des situations de travail, enfin avoir une vraie expérience professionnelle, mais je pense qu'on peut aussi par tous les contacts qu'on a avec l'entreprise créer des situations qui se rapprochent de plus en plus du monde du travail.
Voilà, alors je vous remercie pour votre intervention, ça me permet de réagir. Effectivement, parmi les tâches qui sont assignées aux enseignants, c'est aussi de se former tout au long de leur vie professionnelle. Et effectivement, les liens, les visites d'élèves en stage, ça leur permet aussi des échanges avec les professionnels de terrain pour mesurer, voir et s'approprier les évolutions du métier. Et donc ça fait partie de la formation que l'enseignant fait, j'allais pas dire naturellement, parce que rien n'est naturel, donc c'est intégré et c'est naturalisé dans son activité de travail. Voilà, effectivement. Et donc il y a une tendance, et alors là je n'engage que moi, il y a une tendance du transfert de l'apprentissage des gestes de métier, donc de la spécialité professionnelle, du LP vers le monde professionnel.
Je voulais revenir sur, je change un petit peu de thématique que l'on a évoquée jusqu'à maintenant, pour revenir sur ce que vous avez évoqué à propos de la rénovation de la voie professionnelle, qui a permis donc par stratégie un glissement de certains élèves qui pouvaient appréhender la voie générale et qui ont choisi par stratégie pure de venir sur le lycée professionnel et la voie professionnelle pour en faire également donc une voie de réussite. C'est bel et bien ce que nous prenons systématiquement à tous nos élèves. Mais j'aimerais savoir comment vous pouvez le quantifier avec suffisamment de précision, parce que je n'ai encore pas eu l'occasion effectivement de voir une massification, j'exagère volontairement, d'une part, et d'autre part, les seuls éléments qui vont dans le sens de ce que vous avez évoqué, je les vois uniquement dans le cadre des passerelles, c'est-à-dire des jeunes qui sont quand même rentrés dans des lycées généraux et qui peu importe, je ne vais pas analyser pourquoi, mais qui se sentent en décrochement, en décrochage, je ne sais pas si je peux dire décrochement, mais et qui se disent, je vais faire une passerelle pour rejoindre le professionnel et rallier la cause que vous avez évoquée. Donc c'est la quantification.
Alors, je vais revenir sur ce que j'ai évoqué dans mon propos. Donc je me suis appuyée sur une recherche qui a été menée par Vincent Troget. Enfin, il n'est pas le seul à l'avoir menée. Donc il a enquêté dans des LP. Alors, vous le voyez, Vincent Troget, vous pouvez trouver donc les résultats de sa recherche directement sur Internet. Et il a suivi, une cohorte de lycéens professionnels, donc pendant 3 ans, des lycéens et aussi des enseignants. Alors, sa recherche, elle a été menée dans l'ouest et dans le sud-ouest de la France. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de confronter vos propres ressentis, ce que vous constatez, vous, dans l'académie dans laquelle vous êtes, savoir si ce qui a été observé dans ce territoire-là ressemble à ce qui se passe dans un autre territoire. Donc, cette recherche, elle est, j'allais dire, située, elle est localisée. Donc, elle a un sens dans sur ce territoire-là. Après, c'est à vous, aux acteurs des LP, de réagir par rapport à ce résultat-là. Donc, les auteurs n'engagent qu'eux et c'est localisé. Mais c'est quand même quelque chose qui est palpable. Et du coup, effectivement, les élèves qui arrivent, ils n'ont pas tout à fait. Ils ont quand même les codes, ceux-là. Ils ont les codes. Ils ont les codes scolaires, puisque ils jouent avec. Enfin, ils jouent avec. Ils se les sont appropriés et ils ont bien calculé qu'effectivement, à moindre coût, peut-être que ça sera plus pour eux, leur parcours scolaire sera peut-être avec un engagement peut-être différent, peut-être moindre, je ne sais pas. Leur parcours scolaire débouchera, j'allais dire, plus facilement sur la réussite et du coup, ils pourront accéder plus rapidement à l'enseignement supérieur. Voilà. Voilà. Alors, bon, c'est à mettre au débat, quoi. Je ne sais pas si dans vos établissements, vous avez des profils d'élèves comme ça. Tout doucement, ça commence. Oui, donc ce n'est pas que localisé, quoi.
En mode passerelle,
Oui, en mode passerelle, voilà.
Alors, dans mon lycée, moi, les passerelles ont été plutôt, malheureusement, un échec. Parce que les élèves qui ont suivi une seconde générale ou technique qui font les passerelles pour arriver directement en première, fait que toute l'année de seconde, qui n'est pas une seconde générale en lycée professionnel, donc y a déjà un apprentissage du geste, il y a des connaissances techniques, et l'arrivée directement en première, la marche est très très difficile. Et souvent on se retrouve en fait avec des élèves qui font malgré tout un bac en 3 ans parce qu'ils redoublent, il y a l'échec au bac. Quoi. Voilà.
C'est-à-dire
donc on a 4-5 cas sur les 3 dernières années où la passerelle a été mise en place et à chaque fois en fait on a eu un échec au bac. Alors c'est
oui, donc effectivement.
Donc c'est une réelle difficulté. Hein, voilà. Après, est-ce que est-ce qu'il faut adapter la passerelle différemment lorsque l'élève arrive directement intégré dans la classe en première? s'il y a vraiment pas un enseignement particulier qui est mis en place, je pense que c'est vraiment difficile. La passerelle doit être vraiment construite. Alors est-ce qu'il faut diminuer les PFMP à ce moment-là, rattraper sur des heures, intégrer l'élève avec sur la classe de seconde pour rattraper. Enfin, il y a peut-être des choses à mettre en place, mais telle qu'aller pratiquer une intégration simplement du passage seconde générale en première. Enfin, en tout cas, chez nous, ça n'a pas été une réussite.
Je voulais apporter un témoignage pour conforter celui de ma collègue de l'autre académie sur les possibilités d'envoyer les enseignants en entreprise dans le cadre de leur professionnalisation. Et ça a été le cas avec une rénovation de diplôme. Le bac gestion administration sur l'académie, le choix a été fait en partenariat avec une organisation professionnelle d'envoyer tous les enseignants en entreprise sur 2 jours, 4 jours d'immersion, 2 jours dans des services de l'entreprise pour effectivement confronter le référentiel à l'évolution de leur métier. Donc au départ, le témoignage que je peux dire, c'est que certains enseignants étaient ravis, d'autres moyennement ravis, d'autres n'en avaient pas envie, au prétexte pour certains de venir effectivement de l'entreprise antérieurement, et tous ont été vraiment contents de ça. Je crois qu'au-delà de ça, ça les a remis aussi en situation d'être peut-être plus dans l'empathie avec les élèves que d'aller en entreprise, c'est pas si simple. Et donc eux, ils y allaient à deux, mais ça a été une belle expérience. Donc voilà. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que ce questionnement des jeunes enseignants qui sortent de master et qui n'ont pas l'expérience en entreprise, c'est une réflexion globale. On a les chefs de travaux vont connaître la revue de l'enseignement technique de l'AFDET qui est parue la semaine dernière et qui pose la question effectivement de la formation des enseignants dans les ESP pour l'enseignement technique. Donc il y a un dossier spécial là-dessus. On voit bien que ça interroge tout le monde. Voilà.
Oui, bonjour. Je suis enseignante en bac pro vente. Donc j'enseigne la vente. Je voulais revenir sur votre stratégie de contournement pour le retour en lycée professionnel. Je suis assez surprise parce que nos élèves donc de bac pro qui posent leur candidature et notamment en BTS, déjà ont de très grosses difficultés à être sélectionnés, et quand ils le sont, bon nombre connaissent un échec, parce que là c'est pas une marche, je dirais, entre le lycée professionnel et la première année de BTS, mais je dirais que c'est un étage pour eux. Et pour ceux qui sont extrêmement brillants et qui arrivent à se remettre à un travail je dirais assez conséquent, y arrivent, mais les autres, ils n'y arrivent pas. Hein. Donc nous, on est confrontés vraiment à ce problème. C'est la possibilité d'enseignement supérieur.
Et donc, apparemment, dans votre établissement, vous n'avez pas ce profil d'élèves qui viennent en...
Non, non. Non, puis je suis étonnée parce qu'ils se ferment quand même... Enfin, donc je rejoins monsieur sur le fait qu'effectivement c'est plutôt des élèves qui décrochent, qui sentent qu'ils n'ont pas le niveau pour essayer oui, de...
Ils en rabattent.
Voilà, se rabattent, voilà. Je dirais peut-être plutôt par défaut que par volonté.
Oui, non, mais c'est votre témoignage intéressant, parce que du coup, ça met en débat ces résultats.
Par rapport aux différentes remarques qui ont été faites, moi j'aurais plusieurs choses à ajouter. Nous, les passerelles, on a à peu près 700 élèves sur la CEP et 600 en tertiaire. Les passerelles fonctionnent bien, mais comme on a du tertiaire, effectivement, il est beaucoup plus facile peut-être de passer de seconde générale à de la vente du commerce ou de la gestion administration que dans des matières un peu plus pointues. Par rapport aux poursuites d'études, moi je m'aperçois, et je viens de le faire donc le mois dernier sur une étude du suivi des élèves de bac pro par rapport à leur poursuite d'études sur 2 ans, je m'aperçois que beaucoup d'élèves de bac pro demandent des BTS et effectivement ne les obtiennent pas ou peu. Les élèves qui sont en BTS, là ça fait plusieurs années que je fais cette étude de bac pro, réussissent pas trop bien. Donc nous, on a mis en place une liaison bac pro BTS et qui fonctionne mieux en BTS qu'en bac pro. Et ensuite, j'ai été quand même effarée de voir les poursuites d'études de nos élèves. Donc, ils ont choisi en bac pro des sections spécifiques comme la vente ou la mode, puisque nous, on a une section mode, et qui se retrouvent en sociologie, qui se retrouvent en histoire-géographie, qui se retrouvent en langue. Alors, je ne sais pas ce que ça donne à l'université. J'ai pas encore les retours, mais j'ai un peu quelques inquiétudes. Voilà.
Deux interventions.
Bonjour, je suis à l'Académie de Montpellier. Je suis enseignante et je suis aussi chef des travaux. Donc, je ferai juste deux petites remarques. La première, c'est par rapport aux jeunes qui sortent de troisième chez nous. Il y en a pas qui font le choix de venir en lycée pro. C'est effectivement par défaut. Et nous en avons quatre qui ont fait un choix cette année d'aller en seconde, d'être en échec en seconde. Et nous les avons récupérés en grande difficulté morale surtout. En lycée pro. Donc on a un énorme travail de remise en confiance. Donc ça, c'est le premier constat. On les accueille bien sûr, mais c'est dommage. Donc je crois qu'il y a aussi un gros travail à faire au niveau des profs de troisième. Je ne sais pas comment l'orientation est présentée aux parents et comment est présenté aussi le lycée pro qui peut être aussi une voie de réussite. Et puis je répondrai à la remarque du prof de vente sur justement les passages de bac pro en BTS. Au lycée, on a tenté des projets, des immersions. Donc on envoie des élèves volontaires aller en cours de BTS pour voir déjà ce que c'est l'ambiance. Alors, nous, on a la chance d'avoir tous les niveaux, donc on les envoie en immersion en accord avec les enseignants de BTS. Ensuite, il y a des modules qui sont mis en place sur la prise de notes, l'argumentaire. Et j'ai oublié un troisième module qui doit être, je ne sais plus. Donc trois modules qui sont faits pour des élèves volontaires, des modules qui sont faits avec des enseignants à la fois de BTS et de bac pro pour travailler aussi en équipe et les aider à mieux s'organiser pour leur BTS. Ce n'est que de la méthodologie. Et puis le troisième, par rapport au bac GA où il manquait de la compta, il y a des modules qui ont été mis en place cette année, toujours pour des volontaires, pour faire effectivement de la compta, pour les préparer un peu mieux et pour qu'ils soient moins en difficulté en BTS CGO, c'est-à-dire compta et gestion, pour qu'on soit sur la voie de la réussite. Alors pour l'instant, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, mais ça marche. Voilà, donc c'était un point positif. Merci.
Merci. Donc effectivement, quand tout à l'heure je parlais de l'extension des tâches qui sont assignées à l'enseignant, vous venez de montrer qu'effectivement il y a des dispositifs particuliers qui sont organisés localement. Effectivement, c'est vraiment important de prendre en compte la dimension de l'établissement quand on s'intéresse au travail de l'enseignant. Et effectivement, ça, ce sont des données, je trouve, qui sont particulièrement intéressantes d'une part à observer, à analyser, et aussi à diffuser, à valoriser. Parce que il y a des choses qui se font et qui permettent la réussite des élèves. Voilà. Merci.
Pardon, moi je voulais apporter mon témoignage. Je suis Stéphanie Perrin, je suis enseignante en lycée professionnel. Je suis professeure de lettres histoire et j'ai un temps partagé lycée pro BTS. Et donc du coup, je mesure à quel point les élèves issus du lycée professionnel peuvent être en difficulté en section de BTS. Notamment en raison de la maîtrise de la langue, puisqu'en BTS, on doit fournir beaucoup d'écrits. Et c'est un travail qui pose réellement problème aux élèves et qui est un facteur d'échec important. Et du coup, ça me permet aussi de rebondir sur le débat au début des questions qui concernaient la formation des enseignants qui arrivaient du monde professionnel. Moi, je me retrouve aussi avec des collègues qui arrivent directement du monde professionnel et qui sont en difficulté justement pour conduire les apprentissages. Et notamment, se rendre compte que les élèves ont des difficultés de lecture, des différents dossiers sur lesquels ils doivent travailler. Et on essaie de travailler collectivement, parce qu'il y a des démarches d'apprentissage qui relèvent de la didactique du français, et que ces enseignants, évidemment, méconnaissent. Et le travail collectif est là très important pour faire réussir les élèves. Mais c'est vrai que les élèves de bac pro ont un profil particulier en BTS et nécessite un travail, une énergie colossale, oui, pour les faire réussir.
Et puisque vous enseignez en BTS, quelle proportion d'élèves viennent du bac pro?
C'est la majorité.
Oui, on est à 80% de bac pro, c'est ça?
Oui, et bac technologique. Dans la section de BTS, c'est un BTS agencement de l'espace architectural. Donc, ouais. Il peut faire suite à un bac pro qui existe dans mon lycée d'agencement. D'accord. Et sont rejoints par des élèves de lycée technologique. Nous avons quelques élèves qui arrivent dans l'enseignement général des sections S. Voilà. Donc, c'est une grande diversité aussi d'élèves.
Effectivement. Effectivement, une grande diversité.
Alors, notre BTS vient d'ouvrir. Donc, c'est la deuxième année. Ils arrivent là, à l'examen cette année. Et moi, je suis en poste dans cet établissement depuis septembre. Donc, j'ai récupéré, dans ma matière culture générale expression, des élèves qui avaient été formés par une collègue contractuelle. Et là encore, moi, j'ai une approche... ça tient à mon parcours aussi, mais langagière, si je puis dire. Donc, je travaille beaucoup la langue et les outils de la langue pour travailler la synthèse de documents. C'est pour ça que je travaille aussi, j'essaie de travailler en collaboration avec mes collègues de l'enseignement professionnel. Alors que précédemment, ils ont plutôt travaillé le côté culture, ce qui est propre et le défaut vraisemblablement, si je puis dire, des collègues qui enseignent la culture générale, qui oublient la face expression, qui finalement est déterminante dans la réussite, en fait.
D'accord, merci. Dernière question, si on veut essayer de tenir le cadre.
C'est pour réagir aux propos qui vient d'être tenu sur deux points. La première, effectivement, je pense qu'à un moment donné, chacun son métier et qu'il est important de créer un collectif dans les établissements pour concernant le développement des qualités rédactionnelles des élèves, ça se fasse vraiment en concertation. Donc on a en BTS, il y a plusieurs BTS qui ont des ateliers professionnels où on voit déjà cette co-animation et ce travail collectif. Au niveau du lycée professionnel, voilà, le bac gestion administration l'amène ça, mais on n'a rien inventé, hein, ça vient du BTS. Je crois qu'on est plutôt en train de le généraliser. J'espère qu'au niveau de la filière commerciale, on le verra aussi apparaître, parce que ça donne vraiment des résultats, dans la mesure où un enseignant de spécialité, il est quand même pas formé pour développer les compétences engagées des élèves. Et la deuxième chose aussi, je crois qu'il est peut-être important de se questionner sur les pratiques enseignantes globalement, qui, au cours des années, n'ont quand même pas visé à faire écrire les élèves. Quand on demande aux élèves de mettre un mot pour répondre, je veux dire, on ne développe pas les compétences engagées des élèves. Tout le monde est d'accord pour dire que les élèves ne savent plus écrire, mais tout le monde est un petit peu perdu, soi-disant par manque de temps, c'est à questionner le fait de faire écrire les élèves.
Ce sujet-là, j'allais dire, n'est pas une spécificité de l'enseignement professionnel. C'est les mêmes débats au niveau du collège, au niveau du lycée, voie générale et voie technologique, quoi, sur l'expression langagière, effectivement. Et souvent, on entend dire « Ah, oh, il faudrait qu'ils aient 9 heures de français en 6e pour avoir une véritable maîtrise de la langue. » Il me semble que tout enseignant peut contribuer à la maîtrise de la langue, mais je n'engage que moi.